Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis avec Minority. Comment vous allez?
Super bien. Super
très content, content, très content de vous avoir, comme on l'a dit. Vous nous avez peut-être entendu tout à l'heure. Mais ça fait... on était très, très hypés, en fait, de votre venue. C'est pas tous les jours qu'on a des invités. Encore moins des gens qui bossent dans le quantique. Donc c'est trop stylé. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer dans vos chaises, de prendre ce que vous voulez. Les micros, c'est des micros de podcast, donc faut bien les manger dedans. Donc, tu vois,
D'accord.
Tu peux le prendre et le ramener vraiment à 2 cm. Voilà, en dessous, comme ça, ça captera bien tout ça. C'est la première fois que vous faites du Twitch ?
Bah ouais. Moi aussi.
Il y a un influenceur quand même entre vous deux. Il faut qu'on crève l'abcès. Il faut qu'on le dise dès maintenant. J'ai l'honneur de recevoir un. T'es sur TikTok, YouTube principalement.
Ouais, TikTok, YouTube, un peu Insta. Enfin, je republie les TikTok sur Short. Et bon, maintenant tout le monde a créé son truc, mais.
Je vous invite vraiment à aller voir Premier Degré parce que si vous voulez avoir un peu de vulgarisation en format court. Bah, il n'y a pas de 12 000 gens qui font ça et qui sont en plus légitimes à le faire. Donc, allez voir ça. T'as lancé ça il y a longtemps ?
Ouais, ça fait 2 ans. Et non, c'est cool, ça marche bien. Je suis content. Là, donc, c'est des petites capsules de 1 minute. Quoi. On ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais
Tu nous disais que là, 30 minutes, ce serait un peu chaud pour parler de quantique, mais en 1 minute, ça doit être encore plus galère.
Ouais, bah, du coup, faut simplifier. Quoi. Mais du coup, il y a un challenge. Ouais. De résumer en 1 minute un concept. Quoi.
Très stylé. Et ils sont au courant chez Alice et Bob, qui est bien sûr le nom de la boîte.
Ah oui, ils sont tous au courant.
C'est mes premiers fans.
Non, mais c'est une vraie question parce que c'est même pas un projet de la boîte directement.
Non, pas du tout.
Tu t'es lancé là-dedans. Et puis
on m'a découvert.
Et du coup, ça te donne quand même accès, j'imagine, à du matos et des...
Ah bah pour les TikTok, c'est trop cool. Quoi.
Ah ouais, là, c'est
royal. Je vais dans la pièce d'à côté, j'ai les frigos.
Les images du cryostat.
J'ai les ordi quantiques juste à côté. C'est parfait, ouais.
Dans la salle des ordi quantiques, j'imagine, je ne sais pas, on va en parler. À quoi ressemble
on aura des images.
Dans le premier degré, je pense que c'est la première question qu'en fait que je suis en train de me poser. C'est à quoi peut bien ressembler une salle info quantique ?
Alors, si tu avais été dedans, tu te poserais. Enfin, ce que tu retiendrais surtout, c'est le bruit que ça fait.
Okay. Mais on en reparlera. C'est comme une salle saveur un peu.
Mais quand t'en ressors, différent.
Ok.
Un peu différent. Mais tu ressors. Ton oreille, en fait, a appris à le filtrer quand t'as passé 4 heures dedans d'affilée. Et du coup, t'as l'impression que le monde extérieur.
Tu ressors et tout est silencieux.
Exactement.
On pense aux doctorants qui sont restés 3 ans dans ces salles. Ils sont hantés par le bruit.
Et donc. Toi, c'est la première fois du coup que tu es en live avec nous.
Tout à fait.
Est-ce que, Mashuka, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, où est-ce qu'on peut... je sais qu'à chaque fois qu'on a ce genre de discussion, c'est frustrant pour les gens qui veulent aller plus loin. Mm-hmm. Donc déjà, d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a des publications, par exemple, de tous les, qui permettent de pousser un peu les sujets dont on va parler ? Qu'est-ce que vous conseillerez comme ressource un peu ?
Alors, comme ressource d'entrée... Ouais, peut-être que tu as une idée.
Être embauché chez Alice et Bob.
Ouais, se lancer dans la lecture d'un article scientifique, c'est vraiment dur.
C'est ardu, quoi. C'est aride.
Et même nous, tu vois, dès qu'on sort un peu de notre sujet, vraiment, c'est hyper dur de lire un article scientifique. Donc, c'est peut-être pas le premier truc. Ouais.
Bah non, mais moi, je crois que le meilleur format pour ça, c'est plutôt de la discussion, à mon avis. Ouais. Quelque chose qui serait genre en vidéo, par exemple, où on aurait genre des élus. Et visuel.
Est-ce qu'on va faire de notre mieux ?
On verra cette vidéo.
Je pense que tu peux baisser un tout petit peu ton micro parce qu'on va te cacher. Faut que tu peux le mettre pour que ça vise ton menton, tu vois. Excellent. Je fais ma petite intro et on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'informatique quantique sans peut-être trop comprendre concrètement en fait ce qui se cache derrière. On en avait déjà parlé avec Vivien de Microsoft à l'époque. Et ces nouvelles capacités de calcul informatique pourraient changer pas mal de domaines de la vie. par exemple créer des nouveaux matériaux pour les batteries, fabriquer des nouveaux médicaments encore inconnus, peut-être casser les méthodes de chiffrement actuelles, qui sait. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'est de comprendre une fois pour toutes pourquoi c'est si difficile de faire ces ordinateurs quantiques, pourquoi ça fait des années qu'on en parle et que, entre guillemets, ça n'arrive pas, sauf à grand coup de marketing où on dit qu'on y a réussi, mais en fait, quand on regarde de plus près ce qu'annoncent les GAFAM, etc., c'est pas forcément non plus si foufou. On a la chance, pour ça, de recevoir deux experts du domaine qui nous viennent de l'entreprise Alice et Bob. Ils vous le diront pas vous-même, mais Alice et Bob, c'est une petite boîte avec peu de gens qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique. Vous pouvez imaginer que c'est une course. Et on a la chance, en France, d'avoir au moins une structure qui mène ce combat avec la rage de vaincre et qui potentiellement, en 4 ans, ça vous allez me le dire, c'est vous qui allez me le confirmer, mais potentiellement en 4 ans pourrait faire ce que Google n'a pas réussi en 15. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans la discussion. On va parler d'un dérouler un petit peu tous les sujets, détailler ce que vous faites. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas?
Donc, j'y vais. Voilà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Diego. Donc, comme tu as dit, je travaille chez Alice et Bob. Donc, je suis en thèse, deuxième année de thèse, et sur l'informatique quantique. Et c'est trop cool de travailler dans ce domaine.
Et moi, je m'appelle Ulysse, je suis également en thèse, en troisième année. Je rédige mon manuscrit et je suis arrivé au tout début d'Alice et Bob. Chronologiquement, je suis le premier employé d'ailleurs.
Et donc, en quelle année?
En 2020, si je ne dis pas de bêtises.
2020, donc c'est tout récent, c'est fou en fait.
La boîte a un peu plus de 3 ans.
Ok.
Et on est 80 maintenant quand même, donc c'est... On est une grosse start-up maintenant.
Ouais, c'est-à-dire que...
Très vite, hein, ça fait très bizarre. Hein.
80 employés en 4 ans. Oui, c'est plutôt une bonne... J'imagine que les moitiés, c'est l'année dernière. Alors, c'est souvent comme ça, en général.
C'est à peu près ça, ouais. Ouais.
Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un ordinateur quantique? Quel est le but de travailler dans ce domaine?
Ouais, donc, le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs qui prendraient énormément de temps sur des ordinateurs classiques. Donc, ça c'est vraiment le terme qu'on utilise, ordinateur classique. C'est tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, les centres de calcul... On appelle ça des ordinateurs classiques. Et donc le but, c'est pas, tu vois, de faire des calculs deux fois plus rapidement qu'un ordinateur classique, parce que bon, on le verra, mais c'est hyper compliqué de construire un ordi quantique. Donc le but, c'est pas que ça prenne 30 secondes au lieu d'une minute. Tu vois, le but, c'est vraiment de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours, qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années ou même des milliards d'années. Tu vois. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. C'est vraiment ça le but.
Par exemple.
Donc on a, donc c'est un peu ce que tu disais en intro, la personne qui a imaginé la première les ordinateurs quantiques, c'est Richard Feynman, donc très très grand physicien du XXe siècle, qui avait dit, alors c'est une citation un peu inexacte, mais si vous voulez simuler la physique quantique, utilisez pas un ordinateur classique, utilisez un ordinateur quantique, parce qu'il sera fait pour ça. En fait, l'idée, elle a un peu émergé du fait qu'effectivement, ouais, simuler la physique quantique, c'est hyper compliqué. Tu vois, genre, si tu veux simuler une molécule, grosso modo, à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par deux. Et donc, c'est exponentiel et très vite, tu peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule. Par contre, un ordinateur quantique, lui, il est câblé pour ça. Il pourra faire... Donc, le premier, je pense, ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique, c'est vraiment simuler la physique quantique. Alors dit comme ça, ça a peut-être l'air de rien. On peut se dire bon,
pas gros nerd. À quel point c'est important en fait.
Voilà,
c'est fondamental.
On peut se dire que c'est un délire de physicien.
Ouais, ouais, mais c'est pas
mais,
un truc de.
En fait, bon, tout est quantique en vrai. Mais par exemple, tu vois les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique. Et donc pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. Et pareil, on avait parlé alors il y a quelques années du repliement des protéines quand Google avait réussi. Avec AlphaFold, c'était ça, ouais.
Oui, c'est ça.
À prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un problème qui est en fait un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler. C'est pour ça qu'on a essayé par IA. Et typiquement, là, un ordinateur quantique pourrait très bien savoir comment une protéine se replie. Et donc, et comme c'est le repliement, donc un peu comme un origami qui détermine ses propriétés, à quelle molécule elle va s'accrocher, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais... Ouais. En tout cas, ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens qui font de la bio et c'est typiquement un truc qu'on pourrait faire sur un ordinateur quantique.
Et on parlait de la médecine. Est-ce qu'il y a, là aussi, il y a des perspectives du coup très concrètes de trouver des médicaments? Bah, c'est un peu le même sujet, j'imagine.
Ouais, après, on peut pas, on peut pas dire précisément, voilà, si on a un ordinateur quantique, on pourra faire cette simulation et trouver le remède contre le cancer. Tu vois, on n'est pas en train de dire ça, mais on dit que il y a beaucoup de chemins. C'est des trucs qui sont envisageables, quoi.
Parce que aujourd'hui, pour faire une déterminer la structure d'une protéine, soit AlphaFold te donne la réponse. Et dans ce cas, tu es content. Soit tu dois faire de la cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite des semaines de mesures. Si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait, on imagine, que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes.
Oui, donc c'est vrai, c'est pas juste une optimisation, on est sur un
changement de paradigme.
Un changement complet. Ok, donc déjà, c'est un peu plus concret. Maintenant, la question d'après, c'est: ça a l'air génial, on a l'air de pouvoir faire plein de trucs cool. Comment on fabrique un ordinateur quantique? On commence par quoi?
Du coup, j'y vais.
Vas-y, lance-toi.
Fort bien. Alors, en réalité, il n'y a pas qu'une seule stratégie aujourd'hui pour essayer de fabriquer cette machine. Il n'est pas clair quelle va être la stratégie qui va gagner à la fin la course à l'ordinateur quantique. Je pourrais citer les ions piégés, les atomes froids, photonique, merci beaucoup. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur une techno qui est probablement l'une des plus représentées aujourd'hui dans la course à l'ordinateur quantique, qui s'appelle les circuits supraconducteurs. Tout à l'heure, il passait des images du labo, des cryostats peut-être qui peuvent en repasser à la régie. Les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme sur laquelle on va venir essayer de stocker de l'information en exploitant les propriétés de la matière. Et pour faire ça, on a besoin d'énormément refroidir. Quand tu utilises cette technologie, tu as besoin de travailler avec des énergies qui sont bien en dessous des énergies qui casseraient la supraconductivité de tes matériaux. Donc là, on voit un cryostat, donc c'est l'intérieur des frigos, on les appelle comme ça au laboratoire, dans lesquels on met nos puces, tu vois, on les met tout en bas. Là, on est en train de voir quelqu'un en train d'assembler les puces. Et il faut bien voir que là, donc, tout est doré. C'est du cuivre, tout est en cuivre, recouvert d'or pour faire d'excellents contacts thermiques. Et ces cryostats, ensuite, on les referme une fois qu'on a mis nos expériences. On met plein de couches en poupée russe pour nous isoler au maximum de l'environnement électromagnétique environnant, parce qu'on va travailler à des fréquences typiquement de l'ordre de la dizaine de gigahertz. Donc en fait, c'est exactement la fréquence des télécoms. Donc si t'es mal isolé, tu vas capter le wifi sur tes types. Enfin, j'exagère, mais Raphaël...
Je peux vraiment capter le wifi.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Sûr. Ouais. C'est sûr. C'est du 5,5 gigahertz, typiquement. Donc, donc il faut bien, bien t'isoler. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un très bon vide et tu vas venir refroidir ton échantillon. Et les températures à laquelle on travaille, c'est typiquement 10 millikelvin. Donc, 10 millikelvin, tu vois, c'est 10 millikelvin au-dessus de moins 273,15 degrés Celsius. C'est le zéro absolu.
En gros, c'est moins 273,14 degrés.
Exactement.
Et il n'y a pas une histoire comme quoi c'est plus froid que dans l'espace, non?
Ouais. L'espace, si tu veux lui donner une température critique, c'est celle, typique, c'est celle du fond cosmologique diffus. C'est un bon point de référence. Et il est à genre, on a rediscuté 3 degrés Kelvin. Donc voilà, c'est.
Et puis, ouais, il est à moins 270 et nous, on est en dessous. C'est parce que dans l'espace, en fait, c'est vraiment ces boucliers qui nous permettent, nous, de bloquer ce rayonnement. Exactement. Tout l'univers est plongé dans ce rayonnement qui a été émis après le Big Bang. Et nous, avec les boucliers, en fait, on bloque, donc on peut descendre plus bas, quoi.
Tout à fait.
Plus froid que l'univers.
C'est une bonne façon de le dire, c'est pas faux. Et voilà, et donc ces circuits supraconducteurs, typiquement, t'en as sur la table, en fait. Ils ressemblent à ça, je sais pas si on peut
les... Mais si, prenons-les, montrons-les. On m'a dit, on a amené des ordinateurs quantiques. Alors, et ouais, j'ai vu des tout petits trucs qui payent pas de mine.
Je sais pas si on y voit très bien à la régie, mais donc là, ce que je tiens, c'est une boîte. Donc c'est typiquement ce genre de boîte qu'on met au fond du cryostat.
Tu peux la monter un peu, ouais, regarde, si t'as le retour ici.
Voilà. Pardon, j'ai un coup de micro. Et donc si j'ouvre la boîte, on va voir à l'intérieur un petit circuit qui est lithographié. Donc là, je sais pas si c'est du silicium ou du saphir. Et ce qu'on lithographie, c'est typiquement du niobium ou de l'aluminium, qui sont en fait des métaux tout à fait usuels. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la plupart des métaux usuels sont supraconducteurs. Il faut juste les refroidir suffisamment.
Ah oui, d'accord.
Donc, évidemment,
mon CPU n'est pas à 0 degré Kelvin.
Donc, il n'est pas supraconducteur, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu vois, sur cette puce, on a plein de petites entrées-sorties qui nous permettent de greffer des lignes coaxiales pour envoyer et recevoir des signaux micro-ondes qu'on va venir contrôler avec une électronique à température ambiante. Par des lignes de descente, on les voyait tout à l'heure, on va pouvoir acheminer ces micro-ondes par des chemins qu'on a bien choisis et qu'on a bien bien isolés pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui rentre dedans. Et nos signaux, on va les récupérer et les analyser avec typiquement l'électronique utilisée dans les télécoms. Et c'est un truc qui est chouette, c'est que pour travailler avec les circuits supra, tu dois travailler à quelque chose comme 5 GHz. Et la plupart des télécoms aujourd'hui sont optimisés pour travailler dans ce régime de fréquence. Donc en fait, pour un prix raisonnable, tu peux avoir une électronique d'extrêmement bonne qualité. Et ça fait partie des nombreuses raisons qui font que cette technologie émerge beaucoup. Parce que dans les concurrents, si tu veux faire, mettons, des ions piégés, il faut c'est tout de suite des expériences d'optique en fait.
Okay.
Avec des tables où tu as des lasers dans tous les sens et tu fais des optical tweezers pour manipuler tes atomes. Enfin, t'as des thésards qui perdent 3 ans de leur vie à calibrer des lasers pour
que ça marche juste pour pouvoir commencer
en fait l'arc, pour commencer à faire l'expérience et des manips qui ont des temps très longs. Les circuits supra, tu peux itérer très vite. C'est un vrai avantage.
Et alors, est-ce que ça, du coup, on peut appeler ça un ordinateur quantique?
Peut-être. Alors, non, c'est un peu ambitieux celui-là. Il est un peu petit.
C'est un prototype. Mais du coup, tu vois, le petit carré argenté que Ulysse montrait, c'est vraiment ça le processeur, quoi. Donc, c'est 1 cm par 1 cm. Et du coup, dans ce processeur, il y a les fameux qubits, donc pour quantum bit en anglais, qui sont l'équivalent, donc dans un ordinateur, si on zoom, c'est des 0 et des 1, vous en parliez tout à l'heure. En informatique quantique, on utilise donc des qubits, donc c'est ça qui retiennent l'information quantique. Et ils peuvent être dans 0, dans 1 ou dans une superposition des deux. Donc c'est là qu'on va peut-être commencer à parler de physique quantique.
À perdre des gens.
Donc en gros, ils peuvent être un peu dans 0 et dans 1, pour le dire simplement. Et donc l'intérêt, c'est que si t'as donc j'avais préparé une petite animation si la régie la retrouve, mais si t'as plusieurs qubits, tu vois par exemple si t'as 3 qubits. En fait, tu pourras les mettre dans la superposition des 2^3 états possibles. Tu vois, tu pourras avoir en même temps 0, 0, 0, 0, 0, 1 jusqu'à 1, 1, 1, tu vois.
Okay.
Et tu peux créer, et tu vois, si t'as... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc là, si t'as 3 qubits, tu peux créer une superposition. Donc c'est ce qu'on voit entre les petits crochets. Donc les petits
c'est la notation pour dire que c'est...
Ça veut dire
quantique.
C'est quantique.
D'accord. C'est quantique.
Tu vois, tu mets t'as des 0, des 1, c'est normal.
Okay. Tu mets des crochets.
Tu mets des crochets, c'est quantique.
Là, ça marche plus sur mon ordinateur.
Et donc, tu vois, et l'intérêt, c'est si t'as n qubits, du coup, tu peux faire une superposition de 2^n états. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, tu vas faire une opération sur ton ordinateur quantique. Donc, c'est vraiment des trucs, je sais pas, une porte OU, une porte E. Enfin, c'est vraiment l'équivalent...
Tu vois, les processeur normal, ouais.
Ouais, les briques de base, elles vont s'appliquer en même temps sur toute ta superposition. Okay. Tu vois. Donc c'est pour ça que les gens résument parfois en disant que tu as une espèce de parallélisation inhérente à la physique quantique qui fait que tu peux calculer sur tous les états en même temps. Alors, il y a quand même une petite subtilité à ça, c'est qu'en sortie de ton ordinateur quantique, tu vas mesurer qu'un seul résultat. Tu vois. Ouais. Donc tu auras une bit string de 0 et de 1 et tu n'auras pas une superposition géante.
Ouais.
Donc en fait, tout le jeu d'un algorithme quantique, c'est d'arriver à exploiter au milieu de l'algorithme, tu vois, cette superposition, sachant qu'à la fin, tu veux quand même que ton truc converge vers la bonne réponse.
Ok.
Mais tu vois, c'est en exploitant la parallélisation au milieu.
Ouais. Que non mais c'est hyper raison. Je pense, est-ce qu'on peut pas faire un parallèle en disant que si un processeur normal, par exemple, c'est un petit ruisseau, on va dire qu'il y a une certaine largeur normale, et ben un processeur quantique, il permet de en entrée, t'as toujours le même petit ruisseau. Au milieu, ça peut devenir un énorme torrent, en fait, qui peut processer, entre guillemets, beaucoup plus d'informations. Et en sortie, ça redevient un tout petit ruisseau. Et tout le jeu, c'est de trouver comment faire comment profiter de cette puissance au milieu de l'algorithme, tout en n'ayant qu'un input et un output limité comme d'habitude. Est-ce que c'est un parallèle que tu validerais?
C'est plutôt une image pas trop mauvaise,
ouais.
Hein.
Peut-être ouais. Je te la volerais. J'irais plus, ouais, où c'est plein de petits ruisseaux ouais. Au milieu, tu vois. C'est-à-dire, au milieu de l'algorithme, si t'as 100 qubits, tu vois, t'as un peu 2^100 ruisseaux, et si t'arrives à bien les manipuler, t'auras l'info que tu veux quand à la fin ça reconverge vers un ruisseau.
Si tu veux partir dans les images un peu plus ouais. Mindfuck, peut-être qu'un truc qui serait pas complètement déconnant, c'est de dire que ton ruisseau, c'est une onde qui se propage. Tu as un torrent d'ondes, ouais. Et à la fin, tu veux les faire interférer de telle façon que tu aies un gros pic à l'endroit de la solution de ton problème, okay, qui est intéressante.
Okay.
Et en fait, en disant ça, tu te rends compte que tu peux pas faire n'importe quoi, parce que manipuler des trucs qui ont des phases, c'est beaucoup plus contraint que de juste explorer toutes les branches d'un labyrinthe en même temps.
Effectivement, je pense que pour avoir l'analogie, il faut en fait peut-être du traitement du signal ou des trucs comme ça.
Ouais, ouais.
Mais peut-être en techniquement le son est une le on peut faire le parallèle avec du son qui est une, oui, une onde comme une autre. Faudrait faire en sorte que tu veux que ton algorithme donne la bonne note sans qu'il y ait d'interférence entre guillemets entre toutes les autres qui a été mise, je sais pas.
Ça part un peu loin là.
Ça part un peu loin. Peut-être qu'on exagère. Faut faire très attention aux analogies parce qu'après on se fait taper sur les doigts.
Tu vois, c'est vraiment pour ça que on peut pas juste prendre un algorithme classique, le passer dans la moulinette et avoir un algorithme quantique qui marche 10 000 fois plus vite, tu vois. C'est justement parce que c'est ce jeu complexe d'interférences qui donc c'est vraiment c'est des chercheurs qui trouvent des algorithmes quantiques, ouais, et on n'en trouve pas un toutes les deux semaines, tu vois.
Ben, c'est ça, c'est que ce que je trouve fascinant, c'est que là, on va justement parler un peu de ce qui est difficile et pourquoi, peut-être, là, cette fois-ci, ça pourrait marcher et pas trop les fois d'avant. Mais juste avant, en fait, ce qui me fascine, c'est que les algos, on les a depuis bien plus longtemps que le hardware pour les faire tourner. Et je trouve que c'est, quand on le sait pas, ça mindfuck, c'est-à-dire que c'est, on sait déjà quelle ligne de code, entre guillemets, on va pouvoir exécuter sur ces processeurs le jour où ils vont arriver, mais ils ne sont pas là. C'est fou.
Je crois que c'est... En fait, le premier algo quantique qui a été trouvé, c'est 1994, donc c'est Peter Shor. Et c'est justement l'algorithme pour casser RSA. Du coup, bon, j'ai pas besoin d'expliquer.
Ensuite, les gens lui ont dit « ça marchera jamais ».
Juste pour expliquer, RSA, qui est derrière tous les algorithmes de chiffrement symétrique. Donc globalement, ce qui fait toute la confiance hein, sur Internet, vos paiements sécurisés, tout ça, imaginez que tout ça est basé sur RSA derrière. Et cet algorithme de Shor, c'est ça ?
Ouais. Ouais.
Permettrait de casser avec un ordinateur quantique n'importe quel chiffrement d'une taille. Parce que c'est ça la différence. À l'heure actuelle, on sait casser du chiffrement qui est avec des clés trop petites.
Ça te prend un temps exponentiel avec la taille de la clé. Avec un ordinateur quantique, tu peux imaginer faire ça en temps polynomial.
Et donc, en gros, ça veut dire que c'est pas juste faire des clés plus grosses, ou 10 fois plus grosses, ou 100 fois plus grosses.
Parce qu'il faut changer de méthode.
Il faut changer la méthode, quoi.
Alors, bon, c'est pas l'application qui vend le plus du rêve, parce que t'as juste l'impression que...
Ça fait peur.
On va juste devoir changer tous nos systèmes de sécurité, ouais. Génial. Alors, en pratique, il y a du coup des systèmes de chiffrement post-quantique qui existent déjà. Je sais, aux États-Unis, ils sont sur le coup, en tout cas en France aussi, pour justement, quand il y aura des ordinateurs quantiques, ne pas que n'importe qui puisse pas déchiffrer les messages. Et donc, c'est pas... Tu vois,
pas de panique. C'est pas,
au final, ça va aller. Ouais. Et l'ordinateur quantique servira... Enfin, c'est pas le but, quoi.
Ce que je vous propose maintenant qu'on a eu un petit peu un visuel de ce qu'il y a tout au cœur de la machine, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait. Pourquoi, toujours maintenant, on n'a pas beaucoup de résultats concluants. Pourquoi c'est... Alors que pourtant, j'imagine qu'il doit y avoir des milliards investis. Enfin, ça doit être une course entre
c'est
des...
C'est une titans. Énorme bulle financière, ouais.
Est-ce que vous pouvez expliquer, justement, pourquoi c'est... En fait, pourquoi c'est dur? Et qu'est-ce qui a été imaginé de votre côté pour... J'imagine qu'il y a plein de secrets de fabrication, mais pour donner une idée générale, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, pour surmonter ces difficultés-là ?
Alors, déjà, pourquoi ça ne marche pas ? En fait, la raison profonde, c'est que la physique quantique, c'est très fragile. Tu vois, on disait, par exemple, on refroidit à des températures très, très froides, mais dans votre ordinateur que vous avez chez vous, par exemple, s'il monte de 20 degrés, ça ne va rien changer. Tu vois, le truc marche toujours, c'est hyper robuste, en fait. Un ordinateur quantique, si ça monte de 1 degré, tout est cassé, tu vois. Et donc, et typiquement, si la température des frigos monte trop, on voit que les performances des qubits se dégradent, tu vois. Donc, c'est comme la physique quantique, c'est hyper fragile.
Mais c'est encore plus froid que l'espace à ce moment-là.
C'est toujours plus froid que l'espace, mais on a quand même vu la dégradation.
Ouais.
Et donc, on est hyper sensible à toutes les conditions extérieures. C'est pour ça qu'il y a, c'est hyper protégé, il y a plein de boucliers, etc. Mais à la fin, ça fait que le temps de vie de l'information dans un ordinateur quantique, aujourd'hui en tout cas dans les supraconducteurs, c'est disons entre la microseconde et la milliseconde. Donc concrètement, tu vois par exemple si je fais, tu sauvegardes un film sur ton disque dur, t'espères que quand tu reviens deux jours après, les 0 et les 1 qui composent le film sont toujours là et les 0 ne sont pas changés en 1 et les 1 ne sont pas changés en 0. Et dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, toutes les centaines de microsecondes, un 0 se transforme en 1 ou un 1 en 0 sans que tu le veuilles. Donc tu vois, tu peux pas faire des calculs avec ça.
T'es en train de regarder ton film et là, tout explose, tout crash, Iron Man disparaît.
T'as du bruit blanc. Donc ouais. Et c'est pour ça que vraiment, quand Shor il a sorti son algorithme, je crois qu'il a raconté qu'un an après, il y a un papier qui est sorti qui a dit, mais en fait, ce sera impossible parce qu'on n'arrivera jamais à construire des systèmes assez robustes. Tu vois, le temps d'exécution, tu vois, pour faire l'algorithme de Shor, je sais pas, il faudra un truc qui survive. Je sais pas, au moins une heure ou un truc comme ça, tu vois. Faire tourner un truc pendant une heure, donc il faut que ton information sur des milliers de qubits, pas juste un.
Sur les ordinateurs d'Alice et Bob, on prévoit de le faire tourner en combien d'heures?
C'est 8 heures. C'est les benchmarks qu'on a fait. Il faudrait, tu vois, il faut que l'information vive pendant 8 heures.
Ok.
Et
avec le nombre de qubits que.
Beaucoup de qubits. Okay. Et donc les gens pensaient que c'était impossible, quoi. Ils se sont dit, bon, on n'y arrivera jamais. Puis, en fait, c'est Shor qui a à nouveau inventé qui est vraiment hyper fort, je suis admiratif, qui a inventé ce qu'on appelle la correction d'erreur quantique. Donc, l'idée de base, enfin, les reprises de la correction d'erreur classique, c'est un truc qui existait déjà pour, en fait, le développement des premiers, alors je crois que c'était pour les télécommunications, c'était Hamming, donc un physicien informaticien des années 40-50, qu'on avait marre que quand il envoyait ses signaux, ses zéros se transformaient en 1, et donc il a inventé la correction d'erreur. Donc le premier truc que tu peux t'imaginer, c'est que voilà, si mon 0 ou mon 1 il est trop fragile, bah, je vais juste répéter l'information. Tu vois. Je vais juste dire, mais en fait, mon 0 c'est 3 0 et mon 1 c'est 3 1. Et du coup, si j'ai un 0 qui se transforme en 1, tu vois que j'ai encore 2 0 qui retiennent mon information. Et donc je peux faire un vote de majorité, dire bah, le 1 il est tout seul, il est louche, par contre j'ai encore 2 0. À mon avis, c'était 0, 0, 0, et hop, le 0, je retransforme en 1. Et après, tu vois, dans ton algorithme, ça voudrait dire que tu auras une étape où tu vas faire les opérations, une étape où tu vas corriger les erreurs, une étape où tu vas faire les opérations. Donc, tu vois, en fait, à la fin, la machine que tu as, elle corrige autant les erreurs qu'elle fait des calculs.
Ouais, ouais.
Les deux seront l'un après l'autre.
Autant d'énergie à corriger les bugs intempestifs qu'à calculer des trucs, quoi.
Ouais, bah en fait, à la fin, parce que c'est ce qui était sur l'animation, c'est que, tu vois, si t'as 3 0, mais que t'as 2 0 qui se transforment en 1, bah là, ça marche plus, tu vois. Même ton vote de majorité,
ouais, bah oui,
il va inverser le 0, le dernier qui restait qui était bon, il va le mettre en 1, et tu t'auras ajouté une erreur avec ta correction. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le seuil de la correction d'erreur. Donc c'est hyper important, c'est le fait qu'en fait, ta correction d'erreur, elle marche, mais si de base, tes qubits, ils sont assez bons. Si de toute façon par rapport à la fréquence à laquelle tu peux faire ta correction, si de toute façon il y a 10 erreurs entre chaque étape de correction, ça marchera pas, tu vois. Et donc
en fait, je veux dire que c'est hyper important parce que je pense qu'on peut se dire ok, alors il me parle de ces trucs de correction d'erreur. En fait, si vous voulez un parallèle de c'est quoi de la correction d'erreur, c'est un QR code. Si vous avez déjà vu un QR code et que vous scratchez un petit bout et que vous réessayez de le flasher, ça marchera toujours en fait. Parce qu'il y a une redondance d'informations qui fait que même s'il y a un petit bout n'est pas là, bah, tout va bien.
Et bah là, pareil, dans les CD, si tu rayes un CD, comme il y a de la correction d'erreur, c'est pareil. Tu vas avoir le film intact quand même.
Mais là, en fait, c'est vraiment important ce que tu dis. C'est là où tout se joue en réalité parce que c'est ce qui distingue un ordi qui sert à rien d'un ordi avec lequel on peut vraiment, vraiment faire des trucs. Ah.
Aujourd'hui, on n'a que des ordis qui servent à rien, justement parce que...
Ils servent pas tout à fait à rien.
C'est des très beaux objets de physique, c'est incroyable. Par contre, on n'a jamais fait... Alors si, en fait, on a fait... en fait, c'est Google qui a fait un calcul plus rapidement sur un ordinateur quantique que... Enfin, ils ont estimé qu'il aurait fallu 10 000 ans sur un ordinateur classique. Après, il y a des gens qui ont dit, bon, j'ai optimisé, en fait, il aurait fallu moins, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans ce tunnel... Mais en tout cas, voilà, ils ont appelé ça la suprématie quantique. Mais en fait, le calcul était choisi spécifiquement. Tu vois, c'était le seul calcul à peu près qu'ils pouvaient faire,
ouais,
qui marchait. Et c'est pas du tout un calcul utile, tu vois. Et okay, pour faire vraiment un calcul utile, il y aura besoin de cette correction d'erreur, donc qui est juste rajouter de la redondance dans mon système. Et le problème aujourd'hui, c'est vraiment que comme il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de redondance. Et donc, à la fin, des chercheurs toujours de chez Google ont estimé que pour faire tourner l'algorithme de Shor, qui est souvent ce qu'on utilise pour les benchmarks, donc pour KCRSA, il faudrait 20 millions de qubits. Et pour donner un ordre de grandeur, le record aujourd'hui, c'est...
alors Google, IBM, c'est 70.
Google en a 70, IBM, ils en ont 400 à peu près. Il y a une entreprise qui a annoncé qu'ils en avaient 1000.
Après, IBM, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont extrêmement opaques.
Ok, d'accord.
C'est un peu une boîte noire, IBM. Ouais. Donc, Google partage beaucoup plus ce qu'ils font.
Ok.
Bon, en tout cas, tu vois qu'il y a...
On est sûr qu'eux, ils en ont au moins 70, ce qui est très, a priori très très loin du compte.
Oui. On est très très loin du compte et donc le...
Et c'est pas juste mettre 100 fois plus d'argent, j'imagine, ou dupliquer la machine pour augmenter les qubits. En fait, le nombre de qubits est un des, alors, des critères qui est dur à augmenter, j'imagine.
Oui, ben en partie. Enfin, du coup, là, tu rentres dans ce qu'on appelle le problème du scaling, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses une technologie telle que, une fois que tu as validé la brique technologique unitaire, en mettre 100, c'était pas plus dur que d'en mettre 1, tu vois.
Ouais.
Enfin, et en l'occurrence, c'est pas 100, c'est plutôt tout de suite des centaines de milliers. Mais du coup, avec les nombres en question, par exemple, une première barrière, c'est la taille des cryostats à dilution. Tu vois, je t'ai montré des frigos.
Oui, ça va. c'est combien de qubits un frigo comme ça, là?
Alors, si vraiment tu le... Ah, waouh, j'aurais dû essayer de calculer ce nombre.
Tu peux en mettre jusqu'à 50 ou 100, je crois.
Ouais, en termes de ligne de descente et de montée, ouais.
Ok.
En physique, ouais. C'est ça.
Tu pourras pas en mettre 20 millions là-dedans.
Imaginons qu'on optimise comme des ouf-guedins et qu'on ait que des lignes d'essai. Je pense qu'une safe bound sur un cryostat que t'as vu en image... C'est moins que 5000. Genre, et là, je suis vraiment mais maxi généreux, tu vois.
Okay. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Bon, en gros, soit on se retrouve avec des buildings remplis de frigos à 0 degré Kelvin, soit on trouve une autre solution. Et j'imagine, en réalité, cette première solution n'existe même pas. C'est-à-dire que... Parce que moi, effectivement, c'était un des rares moments où le grand public a entendu parler du quantique à nouveau. C'était « C'est bon, Google a atteint la suprématie quantique ». Suprématie quantique qui est censée être le point d'inflexion où on a prouvé qu'on savait faire un truc mieux avec un ordi quantique qu'avec un algorithme, enfin un CPU normal. Et donc là, tout le monde a entendu parler de ça en mode « Oh, vous avez vu, c'est bon, ça y est, etc. » Et en fait, comme tu dis, bon, l'algo, il sert à rien, là. A priori, personne n'en a entendu parler à nouveau. Et vous n'êtes pas parti sur, a priori, la même stratégie. C'est ce que j'ai compris. Vous êtes sur un chemin complètement différent. Expliquez-nous pourquoi, déjà. Pourquoi vous ne faites pas comme Google? On pourrait se dire, si Google le fait, a priori, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'être sur cette voie-là. Pourquoi vous ne faites pas comme Google et à quoi ressemble votre solution, en gros?
Il faut un peu plus de correction.
Donc, Google et IBM, ils utilisent la même techno qu'on appelle les transmons pour ceux qui voudront creuser. Donc, il y a un truc qui a été développé en 2008, je crois, et qui quand même marche très bien. Et tu vois, l'expérience de suprématie quantique, même si en fait, c'est qu'un point de départ dans l'histoire de l'ordinateur quantique, ça montre quand même que, tu vois, Google, ils ont réussi à maîtriser 50 qubits transmons ensemble à faire ce qu'ils voulaient, etc. Donc en vrai, c'est
une expérience de physique absolument magnifique, quoi. Enfin, ouais. C'est un énorme exploit technique, déjà, ce qu'ils ont fait. Enfin, faut rendre à César ce qui est César, quoi.
Oui, ça a fait Nature direct. Donc Nature, c'est le journal le plus prestigieux. Nous, c'est une expérience incroyable ce qu'ils ont fait. Donc l'histoire d'Alice et Bob, elle commence plus vers 2014-2015, où en fait des chercheurs français ont inventé un nouveau type de qubit qui donc s'appelle le qubit de chat. Donc c'est pour ça que sur les logos d'Alice et Bob, il y a des petits chats. Donc c'est une référence au chat de Schrödinger. Et donc l'idée du qubit de chat, c'est... oui, donc en fait, pour comprendre le qubit de chat, il y a un truc à expliquer d'abord.
Parler du qubit.
C'est qu'en fait, il y a dans un ordinateur quantique, donc non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a deux types d'erreurs. Donc souvent, ce qu'on utilise, c'est une représentation sur une sphère. Donc, en fait, ou un bit classique, on peut imaginer, c'est juste une pièce pile ou face, par exemple. En fait, un qubit, son état, on peut le représenter comme une flèche qui pointe sur une sphère. Donc, tu vois, si elle pointe vers le nord, c'est 0. Si elle pointe vers le sud, c'est 1. Si elle est sur l'équateur, c'est qu'elle est en superposition de 0 et 1. Mais tu vois qu'il y a un continuum d'état le long de la sphère.
Je vais prendre juste une seconde. Tu vois, on n'arrête pas de dire on fait des états superposés, et ce que ça veut dire, c'est que t'es 20% dans 0 et 40%... Non, évidemment, voilà, je suis une erreur de maths, évidemment. 80% dans 1. Et du coup, intuitivement, tu pourrais dire « Ah oui, un qubit, c'est un curseur, quoi.
Ouais. »
Et en fait, il se trouve que si tu fais les maths de la mécanique quantique, malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple. Il te faut les nombres complexes pour en parler. Et du coup, tu es sur la surface d'une sphère. N'empêche que si tu es proche du pôle nord, tu es plus dans 0. Si tu es proche du pôle sud, tu es plus dans 1, sur l'équateur.
Mais du coup, une sphère est une bonne représentation.
Et c'est une représentation exacte de 1 qubit.
Ok.
1 qubit.
Ok.
Et donc, tu vois, les erreurs dont on parlait, c'est passer du pôle nord au pôle sud. Mais après, tu peux aussi être sur l'équateur et drifter le long de l'équateur. Tu vas passer de l'Afrique aux Amériques. Et c'est aussi un problème. Et c'est aussi une erreur qu'on doit corriger. Donc, c'est ce qu'on voit là.
D'accord.
Et donc, en fait, il y a deux types d'erreurs dans l'ordinateur quantique qu'il faut corriger. Et donc, cette deuxième erreur où tu driftes le long de l'équateur, on appelle ça un phase flip. Donc, la première, on appelle ça un bit flip.
Okay.
Donc, c'est une erreur qui existe que en physique quantique. Donc, non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un nouveau type d'erreur qu'on doit corriger.
Fascinant. Ce qui me fait, c'est de découvrir le vocabulaire. C'est un monde part entière, quoi.
Alors, c'est un vrai truc. Quand tu arrives en thèse dans ce domaine et que t'es pas trop familier au début, la première chose qui te choque, c'est que les gens au labo parlent.
Et tu comprends rien.
Et tu comprends vraiment rien. Et il te manque les mots, en fait. C'est vraiment rentrer dans ce domaine profondément, c'est un peu apprendre un nouveau langage.
Terme qui n'existe nulle part ailleurs, comme tu dirais.
Ouais. Bah, les onboarding à Alice et Bob sont assez longs. Et donc, il y a ce nouveau type d'erreur. Non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un deuxième type d'erreur. Et donc, ce que typiquement Google fait, c'est ce qu'ils utilisent. Ils utilisent en fait un code correcteur d'erreur qui est en 2D. Donc, on appelle ça un code de surface. Et c'est vraiment par rapport au, tu sais, je te disais, bon, on met 3 zéros, on en met 5, etc. Tu vois, on augmente la redondance selon une direction. Là, pour corriger les deux types d'erreurs, en fait, ils sont obligés d'avoir des qubits en deux dimensions. Donc, une dimension pour corriger les zéros qui vont se transformer en 1 et une dimension pour corriger donc les drifts selon l'équateur. En fait, c'est... Quand tu es en superposition de 0 et 1, en fait, mathématiquement, tu es dans l'état 0 plus 1. En fait, tu peux passer dans l'état 0 moins 1. Genre, le signe peut changer.
Avec les crochets.
Et c'est avec les crochets, et c'est aussi un problème. Et donc, ils ont besoin de ces deux dimensions pour corriger les deux types d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 20 millions. Tu vois, parce qu'à la fin.
Oui, en fait, quand tu augmentes d'un qubit, en fait, tu as besoin de corriger deux fois ces erreurs. Donc, c'est la progression est.
C'est au carré, quoi.
Carré. Ouais.
Et ils sont à 1 pour 1000, en gros. C'est-à-dire qu'ils prévoient ça. L'informaticien quantique du futur, selon Google, tu vois, il manipulera, lui, il sera à un niveau plus abstrait où il ne s'embêtera pas avec la correction d'erreurs. En fait, chaque qubit qu'il manipulera, ça sera en vrai 1000 qubits derrière.
Ouais, d'accord. Cachés, mais qui corrigeront tout ce qu'il fait.
Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 20 millions.
Ah, mais c'est marrant, j'ai compris, enfin, pourquoi, depuis tout à l'heure, on parle de 70 qubits, 200 qubits, et que pourtant, quand on... Parce qu'on peut faire des simulations via des API d'IBM ou d'Azure.
Oui, tout à fait.
Pour interagir avec les qubits. Et les nombres, c'est plutôt 7 ou 8, je ne me rappelle plus exactement.
Alors, sur l'API d'IBM, c'est vraiment des qubits hardware que tu as. Okay. Ce n'est pas des qubits qu'on dirait logiques, qui sont des collections de qubits qu'on corrige en continu pour essayer d'en avoir un mieux. Et du coup, tu n'en as pas beaucoup sur leurs API. Mais je crois que sur leur API, ils ont au moins un chip à 50 qubits, non, okay. IBM. Mais ouais. Voilà.
Pardon, j'ai dévié. Donc, ce qui nous ramène à la question, ça, c'est la stratégie donc, de Google qui pose du coup ce très, très gros problème-là. Première question, est-ce qu'eux, ils pensent qu'ils vont y arriver comme ça? J'imagine s'ils continuent à investir, mais ou est-ce qu'ils sont un peu désespérés, là?
Je dirais pas qu'ils sont désespérés. Il y a une très grosse conférence de physique où il y avait un chercheur de Google qui avait présenté les résultats du code de surface. Encore une fois, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et ils avaient dit, oui, bon, les chiffres paraissent gros, mais on pense qu'on y arrivera. Bon, après, on sait pas ce qui est... Après, il faut savoir qu'ils recherchent en parallèle d'autres types de qubits.
Okay, c'est ça.
Ils ont un espèce de département R&D à l'intérieur de leur unité quantique. C'est déjà un département R&D.
Ok.
Ce qu'il faut que tu vois, c'est que les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme qui est extrêmement versatile et en réalité, tu as toute une zoologie de façons de faire des qubits sur cette plateforme. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont sur les transmons, mais ils explorent tout l'état de l'art en parallèle. Et si un jour, il y a une techno qui devient sensiblement meilleure, ils switcheront, quoi.
Ils switcheront.
Ah, je pense qu'ils changeront.
Et en parlant de techno différents, justement, vous n'avez pas choisi ce qu'ils font. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous avez fait?
Donc, nous, on utilise, donc je reviens, on a pris un petit détour. Donc, en 2015, il y a des chercheurs français qui ont inventé le qubit de chien, donc qui est aussi un circuit supraconducteur, mais où tu mets, tu as juste ton circuit est câblé différemment. Et ce qubit, il a en fait jamais de bit flip. C'est-à-dire, en fait, on supprime exponentiellement un des deux types d'erreurs, et il reste que l'autre type d'erreur à corriger.
Okay.
Et donc, c'est ce qu'on voit assez bien visuellement, qu'en fait, à la place d'avoir un carré pour corriger des erreurs, on a juste une ligne.
C'est linéaire, du coup, c'est-à-dire que...
Ouais.
A priori, ça a l'air super, surtout, il y a un petit chat. quelle est cette magie ?
Donc, c'est pourquoi tout le monde n'utilise pas des qubits de chat ? Parce que c'est quand même un peu plus dur à faire qu'un transmon, mais nous, on pense vraiment que c'est la bonne voie. Tu vois, quand on regarde les chiffres de 20 millions, Donc, typiquement, ce chiffre de 20 millions, il se compare chez nous à une centaine de milliers de qubits. C'est-à-dire qu'avec une centaine de milliers de qubits de chat, tu pourrais faire la même chose que ce que fait Google avec 20 millions de qubits. Donc, c'est toujours gros, 100 000, mais ça reste quand même plus...
C'est plus raisonnable, quoi.
Ça fait moins sursauter les expérimentateurs.
C'est sûr.
Parce que oui, si tu mets un expérimentateur, un mec qui branche des câbles, qui passe sa vie à mesurer des qubits...
Toi.
Dans la même pièce.
Dans la même pièce qu'un mec qui dit « Oui, 20 millions de qubits sera facile. » Il fait une syncope, quoi, le mec. c'est à peu près ça, la situation, aujourd'hui.
Et donc, 100 000, effectivement, ça paraît une progression de dingue. Comment ça se fait?
Comment ça marche?
Comment ça marche un qubit de chat? Buckle up. Donc, je vais tâcher de vous expliquer un peu avec les mains comment on s'y prend pour faire nos qubits tels qu'il n'est pas de bit flip. C'est-à-dire que quand on les place dans zéro, ils restent dans zéro et ils y restent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire de la correction d'erreur software par-dessus.
Ouais,
on s'en préoccupe plus, quoi. On l'oublie. Et donc pour ça, je vais prendre une analogie qui a été proposée par Raphaël Lesken un peu après sa soutenance de thèse, donc l'un des deux fondateurs d'Alice et Bob. Donc tu vois, nos circuits supraconducteurs, ça reste des circuits. C'est-à-dire, ils sont parcourus par des courants supraconducteurs, mais au fond, tu peux penser, tu vois, quand tu fais de l'électronique au lycée, tu as des courants et tu as des tensions et puis il faut calculer des résistances. C'est pas si différent que ça, ce qu'on fait, seulement c'est pas les mêmes composants. Et nous, on travaille plutôt avec des flux magnétiques et des supercourants et des tensions. Et tu vois, ces nombres, je peux venir... ils ont une certaine équation de la dynamique sur nos circuits. Tu vois. Tu peux écrire comment ils se comportent au fil du temps, l'équation qui régit leur comportement. Et du coup, il se trouve que pour les circuits supraconducteurs, la plupart du temps, tu peux construire des systèmes mécaniques, mais qui ne sont évidemment pas quantiques, tu vois, mais qui ont le bon goût d'avoir les mêmes équations du mouvement. Et du coup, les regarder comment ils se comportent, ça te donne une bonne intuition de ce qui se passe à l'échelle quantique. Et alors, du coup, je ne sais pas si la régie peut envoyer la première animation du dossier 4, mais là, je vais vous montrer du coup ce qui s'appelle un pendule paramétrique. Donc là, vous en voyez 6 à l'écran. Donc, je vais vous décrire ce système. Donc, vous voyez un pendule qui est suspendu à une petite plaque qui est elle-même suspendue à un ressort. Et donc, la petite plaque peut monter et descendre. Alors là, on ne le voit pas. On a l'impression qu'elle ne monte pas et qu'elle ne descend pas. Mais si on revient au début, vous voyez, au début, elle oscille. Et très vite, tous mes pendules, ils convergent soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, pourquoi ça se passe? C'est parce que le ressort en haut, je l'agite à deux fois la fréquence propre du pendule. OK? Si bien... Alors, je vais faire avec les mains. Donc, tu peux rentrer dans un régime où si le pendule est en haut à gauche, mettons, je tire le ressort vers le haut, ça compense l'accélération oui. du pendule vers le bas. Et ensuite, je redescends l'excitateur en haut, l'agitateur en haut, et le pendule arrive en haut à droite. Et du coup, tu peux rentrer dans ce régime oscillatoire où quand le ressort fait une oscillation complète, le pendule fait une demi-oscillation.
Okay.
Et là, ce qu'il faut voir, c'est que si je commence depuis l'état d'équilibre, depuis le vide, ce qu'on appelle le vide, on y reviendra... Eh bien, tu vois, le pendule, il doit faire un choix au début. Il doit choisir s'il part d'abord à droite ou d'abord à gauche. Et du coup, si je te donne une référence de temps, eh bien, la trajectoire où il est parti d'abord à droite et la trajectoire où elle est partie d'abord à gauche, c'est ce qu'on voyait dans l'animation, tu peux la discerner et ça peut te servir de truc binaire. Tu vois,
corriger.
D'un 0 et d'un 1. Et alors, bon, il se trouve que le circuit que vous avez vu, on l'a fabriqué en vrai.
Oh, trop bien.
Du coup, tout le monde.
Je le voyais un peu derrière, je me demandais vraiment ce que c'était depuis le début.
Donc c'est vraiment ce que vous avez vu sur l'animation. Vous voyez, ici, là, je ne sais pas si on voit bien à la régie, j'ai un ressort.
Juste, okay, avant, pour préciser, ça, dans l'idée, c'est un qubit de chat.
Dans l'idée, c'est un qubit de chat. Évidemment, ce n'en est pas. Hein.
Analogie,
c'est
évidemment.
Une analogie. Je veux juste
vous
donner
les mêmes équations.
Ça a vraiment les mêmes équations. C'est-à-dire, si tu écris l'équation θ, enfin sur θ et θ point du pendule et sur x et x point de ça, et que je te montre les équations du circuit, ben c'est les mêmes, seulement dans notre circuit supraconducteur, si vous faites de la mécanique quantique, nous on n'écrit pas des variables, on a des opérateurs qui ont des chapeaux et du coup il y a des crochets partout, mais okay, au fond
c'est la même chose. Ok.
C'est un peu la même chose. Ok. Et donc, tu vois, ce truc-là monte et descend. Je peux l'agiter avec ce petit moteur. Et ça, ça oscille. Et donc, déjà, un truc marrant, donc, je ne sais pas si la régie peut envoyer la vidéo, c'est qu'avec le pendule, on a montré que. Enfin, on a montré. Alors, par contre, je pense qu'on peut couper le son.
Le
donc
son
là, voilà. Et si tu peux refaire play, c'est parfait. En gros. On n'a plus la vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai superposé plein d'images de mon pendule en même temps et je les ai synchronisés. Il y en a quatre. Donc au début, ça fait un peu n'importe quoi quand je pars de l'état au repos. Le système est dans un régime assez chaotique, tu vois.
Ouais.
Mais très vite, donc là, ça commence à arriver, tu vois, tu converges soit vers la trajectoire qui est dans un sens, là c'est bon, on est bien synchronisé, soit vers celle qui est dans l'autre sens.
J'avais pas compris, franchement, avec la voilà. Question d'avant, j'arrivais pas bien à comprendre.
Et là, c'est très
clair.
Et alors, par exemple, juste pour dire donc le chat qui va osciller comme ça, ça va être notre 0.
C'est
et celui qui va osciller en opposition de phase comme ça, ça va être notre 1.
Ouais.
Et alors là, il y a une observation cruciale à faire. C'est que si vous regardez la partie supérieure de l'image, donc là où le pendule est ancré, je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les vidéos sont parfaitement superposées. Tu ne peux pas les discerner.
Ouais.
Au début, tu peux,
ouais.
Mais pas dans le régime permanent.
Là, on voit, il fallait le temps que ça se synchronise, en fait.
Oui.
Mais à la fin. Tout ce qu'on peut considérer comme de l'erreur, du coup, en fait, disparaît.
Alors,
j'ai envie d'y arriver.
Donc déjà, je vais vous dire pourquoi ce système est bien protégé contre les bit flips.
Ouais.
Alors ça, c'est la vidéo suivante. Je profite.
Mais moi, ce que j'ai hâte qu'on le fasse marcher. Parce qu'en vrai,
ah, vous voulez le faire marcher en vrai?
On pourra.
Ah ben, j'ai la lime et tout, mais il faut que quelqu'un me ramène le sac de course qui est dans le lobby.
Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. On le fera à la fin.
Okay, ok.
Comme ça, ils ont le temps de d'amener tout ça.
Ok. Bon, donc si on peut envoyer la vidéo suivante, je vais vous démontrer que ça marche.
Ça marche
donc là,
bien.
J'ai pris deux vidéos qui sont en phase, et vous voyez avec mon doigt, je viens donner des coups dans le pendule. Ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système.
Okay.
Je sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise, il revient tout seul.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
Il passe pas dans l'autre état, il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations.
Okay.
Donc ça en fait un bon candidat pour être un bit. Là, tu m'as dit, bon, ben, génial, tu m'as fait un bit classique avec
pendule.
Un pendule. Il m'en faut plus que 50 millions pour faire un ordinateur normal.
Oui, même pas quantique pour l'instant.
Ok, et donc là, le point crucial, ok, je vais faire un tout petit détour, mais je pense que ça vaut le coup. Donc vous voyez, pour l'informatique classique, vous voulez pas que vos ordinateurs aient des erreurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le monde extérieur, j'en sais rien, l'électricité statique, les rayons cosmiques, ce que vous voulez, est transformé en 0 ou en 1. Et ça, vous pouvez imaginer que c'est une porte non conditionnelle à quelque chose d'extérieur.
Ouais.
Ok.
Par exemple, oui ou non, le chat a marché sur le processeur et changé un bit.
Exactement. Bon, eh bien, en informatique quantique, il y a un truc qui s'appelle la mesure, qui a le mauvais goût de projeter les états. Et en fait, c'est totalement analogue à ce que tu ne veux pas, c'est que l'environnement puisse modifier, le système puisse modifier l'environnement. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ton ordinateur puisse modifier pendant le calcul. À la fin, évidemment, tu vas le regarder, mais pendant le calcul, tu ne veux pas que ton système puisse faire fuir de l'information vers l'environnement. Et il se trouve que, étant donné la façon dont nos circuits sont designés, le seul endroit où il y a un vrai gros point de fuite, si je le monte sur le pendule, c'est ici.
Ok.
D'accord. C'est vraiment à cet endroit que notre circuit, on dit qu'il est très dissipatif, qu'il y a beaucoup de décohérence. Or, ce truc-là, tu vois, quand tu es bien dans ton code space, on parle de, tu vois, la trajectoire qui nous sert de 1 et de 0,
ouais.
Ben, si tu regardes que ce truc, je te cache le reste,
ouais.
Tu ne peux pas savoir si le système il est dans 0 ou dans 1. Et ça veut dire que... Alors, bon, évidemment, ce serait plus dur que ça, mais si je prends ce pendule et que je le refroidis très très froid, bien plus froid que l'énergie typique d'excitation de ce pendule, et que je l'agitais avec des états cohérents, enfin, bref, sur le principe, on pourrait imaginer le mettre dans une superposition cohérente s'il n'y avait pas du tout de frottement à cet endroit et qu'il y reste.
Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans nos circuits. Seulement, ce pendule dans nos circuits, c'est évidemment pas un pendule, c'est en réalité le champ électromagnétique autour d'un petit résonateur. Tu peux y penser comme une petite boîte dans laquelle on met des photons, parce qu'au fond, ce avec quoi on travaille, c'est de la lumière, c'est des modes bosoniques. Et le champ électromagnétique dans ces boîtes, la façon dont elle oscille, c'est soit avec une phase nulle par rapport à ce qu'on appelle le drive, soit avec une phase de pi, et du coup, ça nous sert de 0 et de 1.
Du coup, ce qui fait que c'est à peu près équivalent avec cette Exactement. Trajectoire en arc de cercle de ce truc.
Tout à fait.
Dinguerie. Alors, est-ce que je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire. Tu me dis si je n'ai rien compris. Et me jugez pas parce que c'est quand même...
Non, c'était la partie la plus dure du live.
C'était la partie la plus difficile.
Okay. Déjà, il y a un truc pour qu'on raccroche tout le monde. Si moi, j'ai bien compris, il y a quelque chose dans la physique quantique qui est hyper perturbant quand on découvre le concept de base, qui est que la personne qui constate quelque chose, qui vient faire une mesure, peut avoir une action sur le système qu'elle mesure. Et ce qui n'est pas trop le cas dans la vie. C'est-à-dire qu'a priori... Je sais pas moi, quelle analogie on peut prendre.
Fait de regarder le système, alors là, il y a plein de problèmes avec la façon dont je viens de le dire, change le système quoi.
Par exemple, j'allais
dire. Vulgaire de le dire.
Si tu mesures la vitesse d'un ballon de foot, ça va pas changer sa vitesse juste parce que t'as pris une caméra et t'as filmé sa vitesse. Alors qu'en physique quantique, si quoi.
A priori, si. Et donc c'est pour ça que ce que t'expliquais, c'est que ici il y a un système qui permet de faire cette synchronisation entre guillemets.
Stabilisation.
Stabilisation. Ouais. Et pour autant, quand tu regardes l'endroit que tu as pointé, là, quand tu regardes le milieu, on ne peut pas savoir dans quel état le qubit, donc s'il est s'il est à gauche ou à droite, s'il est proche de 0 ou de 1,
tout à
tu
ne
peux pas savoir dans quel état il est juste en regardant cet endroit. Et donc, tu ne peux pas niquer le calcul.
Tout à fait.
C'est ça un peu ?
C'est un peu ça. Et je vais rajouter une petite couche par-dessus, qui est que même pour un mec qui fait de la physique quantique, c'est en fait assez contre-intuitif parce que. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que pour que cette stabilisation marche, il faut que là, ça fuite beaucoup, quoi. Ça frotte, ça fait beaucoup de ce à quoi on s'attendrait qui provoque des erreurs. Et il se trouve qu'on a designé ce système pour que, ok, à cet endroit, bah, c'est tout pourri, il y a beaucoup d'informations qui fuient, mais on l'a tailoré pour que l'information qui fuit n'emporte pas le morceau crucial qui est-ce que je suis dans 0 ou dans 1.
Ok.
Quand je dis on, c'est véritablement le papier de 2015. C'est pas moi qui ai eu cette idée.
Oui, des papiers produits par les fondateurs, du coup, d'Alice Bob.
Ah, plutôt les directeurs de thèse des fondateurs.
D'accord, ok.
Mais c'est...
Qui leur a après donné l'idée de créer l'entreprise Alice et Bob. Alice et Bob qui est évidemment une référence à ceux qui font la crypto.
Est-ce que j'ai le droit de partir un tout petit peu plus loin ?
J'en prie.
Il y a une dernière animation. Mais ça, c'est pour les gens du live qui ont envie de regarder des papiers. Je tiens à la montrer. Donc, tu vois, à gauche, là, on remonte le qubit sur la sphère de Bloch, ce qu'on appelle la sphère de Bloch, quoi, la boule qui représente l'état quantique. Et à droite, ce que je te représente, c'est un truc qui s'appelle la fonction de Wigner, qui est une représentation de l'état d'un résonateur. Et tu vois, un physicien, lui, il regarde cette fonction de Wigner, tu vois. Et elle a deux blobs, un rouge en haut et en bas. Bon, bah, c'est le 0 et le 1. Et tu vois, quand la fonction de Wigner, elle a des franges au milieu, ça veut dire que t'es dans un état qui est bien cohérent.
Ouais.
Le chat, il a des moustaches. et voilà. Et du coup, si un jour vous allez sur Archive et vous regardez des papiers, bah, vous verrez pêle-mêle ce type de représentation.
Voilà. Okay.
C'est pour les gens qui font des technos proches de la nôtre, en tout cas, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. C'est juste pour le
cacher. Ça, c'est vraiment le printf de l'ordinateur quantique. Exactement. C'est ce que les physiciens regardent en sortie de l'ordre quantique.
C'est bien cette analogie.
Ah, mais tu vois, genre, t'as deux physiciens qui discutent, il y en a un qui dit « Ah ouais, j'ai un qubit », l'autre il dit bah, « Montre-moi les franges, les moustaches de ton chat, quoi. » c'est vraiment ça.
Et donc, là, dans le schéma qu'on a vu, si jamais au milieu, en gros, il y avait un truc tout rouge... qui clignote et qui tourne.
Ça veut dire que t'es bien sur l'équateur de la sphère de Bloch, que t'as bien un mélange quantique de 0 et de 1.
Ok.
C'est ça.
Ça marche. J'allais dire très clair, mais peut-être pas non plus très clair, mais un peu clair. Ce qui est pas mal déjà, en vrai, quand tu y réfléchis. franchement, c'est hyper intéressant. Merci pour ces schémas et de nous avoir amené ça. Ça rend effectivement le truc un peu moins abstrait et abscon, ce qui est souvent le cas quand on parle de ces choses-là. Est-ce que, parce qu'on on a parlé du fait que tout ça venait d'un papier en 2015, etc., fait par un Français, du coup. Est-ce que pourtant, vous êtes les seuls à travailler, à mettre en place ce système-là ?
Alors, ce système-là, précisément, on est un peu les seuls. Donc, notre système, il s'appelle... Donc, on fait des qubits de chat. Donc, ça, c'est l'image qu'on vient de flasher. Et la façon dont on les fait, c'est une stabilisation dissipative. On est un peu les seuls à les faire, mais on n'est pas les seuls à travailler avec des qubits de chat. Il y a d'autres façons de les faire.
Il y a quand même Amazon qui fait pareil. Mais...
Mais
du coup, en fait, Amazon, ils ont... C'est un peu les derniers à s'être lancés. Enfin, Google et IBM, ils sont lancés depuis 10 ans à peu près, même un peu plus maintenant. Microsoft aussi, ils sont lancés depuis assez longtemps. Et Amazon, bon, ils ne s'étaient pas lancés, justement. Ils ont annoncé qu'on va travailler sur ordinateur quantique. Et en fait, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils ont recruté plein de chercheurs, donc vraiment des grosses stars aux États-Unis, genre 50 chercheurs hyper connus. Ils les ont fait travailler pendant un an pour savoir quelle est la bonne voie pour construire un ordinateur quantique. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire comme Alice et Bob. c'est vraiment à peu près ça qui s'est passé.
Ouais.
Donc finalement, on peut dire, si tu regardes juste la situation comme ça, tu peux te dire que bon, ça a mis un gros coup de pression au fondateur de la boîte, évidemment. Mais finalement,
c'est flatteur d'avoir le papier de Raphaël Ezaki sur toutes les slides d'Amazon.
Par exemple, pour une des premières questions que je m'étais posée quand on m'a raconté cette histoire, c'est est-ce que la technologie, notre technologie, elle est brevetée ? Est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser ? Donc oui, elle est brevetée. Mais en fait, tant que tu vends rien, ils peuvent construire un labo, faire des qubits de chat dedans, les tester. Tant qu'ils vendent rien, on peut rien faire, tu vois. Donc c'est parce que c'est le principe de la science, quoi. Ouais. Tout le monde a le droit de faire de la science.
Ils peuvent faire des publications qui complètent les.
Ouais, totalement. C'est le principe de la science, cool. Déjà, en fait, ça fait énormément de pub pour la technologie d'Alice et Bob. Et même en termes de validation, tu vois.
C'est une très bonne chose, en réalité.
Ouais. Quand notre CEO, il va, présenter à des investisseurs et que tu dis, y a Amazon qui a validé notre technologie et qui fait pareil, ça met un peu en confiance quand même. Puis après, il y a aussi un autre point, c'est qu'on a, on a commencé avant eux, on était un peu en avance et au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, on a quand même gardé notre avance. Donc, ce qui est assez cool, parce que c'est pas, tu parlais un peu de ça, c'est pas qu'une question d'argent, justement. Certes, Amazon, ils ont plus d'argent que nous, c'est clair, ils ont sûrement aussi plus de gens maintenant. Mais c'est surtout une question de cerveau, quand même, aujourd'hui.
Ouais.
Vu que ça reste quand même de la recherche fondamentale.
En France, on est très bon pour produire des cerveaux, ça, c'est incontestable.
Et donc, en tout cas.
Et j'imagine que, suivant les domaines, la population de gens en capacité de résoudre le problème n'est pas forcément la même. Est-ce que dans ce secteur-là, donc l'informatique quantique de pointe, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent travailler là-dedans, qui peuvent pousser les choses aussi
loin ? Il y a de plus en plus de. Enfin, ouais. C'est vraiment un champ qui est nouveau. Ouais. Donc, il n'y a pas, tu vois, des experts des qubits de chat, il n'y en a pas des milliers. Et il y en a beaucoup qui sont en France. Et c'est en partie pour ça qu'on arrive à garder notre avance aussi. Après, il y a de plus en plus de masters qui sont créés en informatique quantique, mais ça.
Ma perception du truc, c'est que c'est un peu comme l'IA. Mais tu vois, l'informatique quantique d'aujourd'hui, c'est l'IA des années 98. Quoi. C'est aussi dur de rentrer dans l'IA maintenant. Allez, 2005 par là, quoi. Début des années 2000, ouais. Tu vois. Mais à un moment donné, je pense que ça va arriver, quoi. À grands coups de vulgarisation et tout, les gens vont rentrer plus facilement dedans. Et puis quand il y aura des applications qui marchent vraiment...
Bah là, quand vous allez avoir 200 candidatures sur ce live, déjà, pour commencer. On a pas mal parlé de projection, de ce qui sera possible. Il faut atteindre 100 000 qubits de chat pour résoudre... tel ou tel algorithme. Concrètement, si on ne parle pas de projection, maintenant, là, tout de suite, vous arrivez à voir combien de qubits et vous projetez d'en faire combien ?
Qu'est-ce qu'on a le droit de disclose ? J'ai peur de...
Alors, en tout cas, bon, on peut dire l'étape que tout le monde veut franchir aujourd'hui, c'est de faire marcher la correction d'erreur.
Oui.
Et c'est un truc que personne n'a. Donc, construire ce fameux qubit logique, arriver à corriger les erreurs, personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a Google qui était vraiment très, très proche, mais qui était juste au-dessus de la barre. Il était 20% au-dessus. Et donc, voilà.
Passer en dessous de la barre.
Faut passer en dessous, ouais. Ouais, ça, c'est pas ouf comme métaphore. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, à lycée, bon, on a toujours l'espoir d'être éventuellement les premiers à passer la barre de cette correction d'erreur. Et l'intérêt, c'est que même pour juste faire ça, même pour montrer que la correction d'erreur, elle marche, bah, tu vois, c'était le carré par rapport à la ligne, on a besoin de beaucoup moins de qubits. Typiquement, dans le labo, aujourd'hui, on a, disons, une... Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ?
Je sais pas ce qu'on a le droit de dire.
On travaille sur des prototypes de, disons, entre... Enfin, il faut au minimum 5 qubits. On a des prototypes avec au moins 5 qubits jusqu'à une dizaine de qubits. Et pour l'instant, on travaille vraiment sur ça et faire marcher la correction d'erreur. C'est vraiment la priorité numéro 1. Après, évidemment, on travaille aussi sur scaler ça, parce qu'à la fin, il en faudra 100 000 quand même.
Tout à fait.
Mais voilà, on est vraiment... Enfin, en tout cas, voilà.
Donc, entre 5 et 100 000, en gros, à peu près.
Ouais, bonne fourchette.
Et après, quand est-ce que vous pensez, je sais que c'est toujours dur de faire des projections, mais c'est ça qui nous intéresse aussi, si on devait s'imaginer ce moment-là où justement la barre va être franchie, vous pensez que c'est quand ?
Ben, je pense qu'on le verra, c'est sûr. Et moi, si mon petit réseau de neurones bayésien intégré, à force d'écouter les conversations de couloir, enfin, un horizon de temps de 20 ans, ça me paraît même peut-être 10. Enfin, c'est tout à fait possible, quoi.
Ça, c'est pour construire un ordi quantique.
Pour construire un full ordinateur quantique, ouais.
Pour faire marcher la correction d'erreur.
Ah oui, ça, c'est beaucoup plus court.
C'est, je vois, peut-être l'année prochaine.
Ah oui, ouais. Ah ouais.
Mais enfin, tout ça, Google est bien.
Google est
pas loin, ouais.
Ils ont quasiment réussi. En vrai, c'est même dommage pour le. Enfin, même bon, on sera content que si Alice et Bob y arrivent en premier, pour le champ général,
ouais.
En vrai, ça aurait été cool qu'ils y arrivent.
Ou plutôt le mieux, quoi. Mais c'est quand même. Le fait de se dire que vous pourriez arriver à faire cette démo-là avant Google, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont sur le dos, c'est quand même fou, non ?
Bah, on donne tout. Hein.
Alors, on donne tout et on vend pas de la peau de l'ours, mais on donne tout.
Ouais, c'est ça. On va suivre ça de très très près, évidemment. Question bête, mais est-ce que... Parce que moi, il m'en reste d'autres, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a peut-être pas suffisamment explorés, selon vous, des trucs, des idées reçues que peuvent avoir les gens sur votre domaine, que ce serait l'occasion, justement, de d'évincer ?
Putain, les idées reçues qu'ont les gens sur le calcul quantique, on ne l'avait jamais faite, celle-là.
Bah, en vrai, il y en a. C'est-à-dire que, typiquement, il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils vont avoir chez eux un ordi quantique.
Alors... Là, du coup, effectivement, on peut répondre. Les premiers ordinateurs quantiques, presque à coup sûr, ça va être comme les premiers ordinateurs. Peut-être qu'à un moment donné, on va casser une barrière technologique et que, j'en sais rien, on va trouver un super supraconducteur qui est proche de la température ambiante, si c'est les supraconducteurs qui gagnent la course, et qu'on pourra beaucoup miniaturiser. Mais les premiers ordinateurs quantiques, il y a fort à parier que ce seront des grosses, grosses machines dans des fermes de serveurs, quoi.
Un peu comme ces premières photos qu'on voit des ordinateurs qui prenaient des salles entières. Tu vois, c'est sûr que les premiers ordinateurs quantiques, ça ressemblera à ça.
Exactement.
Ce sera pas grave parce que quand on voit les applications, en fait, c'est de l'ordre de, c'est des trucs qui vont bénéficier à l'humanité sans pour autant qu'on en ait chez nous, en fait. Donc,
disons que si ton objectif c'est de regarder des vidéos sur YouTube, voilà quoi.
Ou de jouer à 500 FPS. Non, ça va pas t'aider. Mais en fait, faut voir plus loin. Voir plus loin parce que vraiment.
Mais après, tu pourras y accéder en ligne.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc finalement, c'est pas si grave qu'on n'en ait pas chez nous, quoi.
Oui, ok. Je pense qu'on a, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre quelques questions si vous en avez dans le chat. J'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'on ferait pas cette démo ?
Ah bah alors, si vous voulez, mais il faut...
Il faut prier pour que ça marche.
Oh waouh ! On m'a rapporté le sac.
On a ramené le sac.
Incroyable.
Potentiellement, il faudra une petite rallonge, j'imagine. Tout est prévu. Dingue. Ouais. Une rallonge de rallonge. Très conseillé, ça.
Là, c'est le moment où on va voir si le truc n'a pas pris l'eau pendant les transferts.
Non, mais c'était sûr qu'on allait le demander. Moi, jamais je vois une machine aussi bien conçue. J'allais évidemment...
Non, Ulysse, le stress de l'expérimentateur, là.
Oui, c'est ça.
Ulysse a fait ça tout seul sur ses week-ends.
C'est vrai.
Il a imprimé les pièces en 3D. Vraiment, il s'est chauffé.
C'est un project sur l'imprimante 3D de ma chambre, quoi.
C'est trop bien.
Au lieu de rédiger sa tête.
Oui, on va espérer qu'il n'y ait pas un effet...
Non, mais ça, il ne faut pas le dire. Trop de thèse.
Tu préfères rédiger une thèse. Branché,
hein ? Non, c'est pas... Tu peux brancher le câble, s'il te plaît.
Bon, alors là, c'est le moment du roulement de tambour. Voilà, déjà, le truc est sous tension. Alors, si j'appuie là, normalement, ça
démarre. Ça va exploser.
Oh ! Ok, donc là, je commente ce qui se passe en temps réel. Donc là, tu vois, on est en train de partir du vide et progressivement, on est en train d'injecter de l'énergie dans le pendule.
Ok.
Ça, le pendule est à résonance, ça amplifie. Et donc là, on va atteindre un régime stationnaire. Alors, ça bouge un peu, mais où, en réalité...
Parce que tu regardes là.
Si tu regardes là, mais en fait, le problème de cette démonstration, c'est que c'est beaucoup plus parlant de la voir en vidéo. Mais tu vois, le mouvement est symétrique que le pendule fasse gauche-droite ou droite-gauche. Ouais. Et du coup, ça marche. Et
tu peux voir aussi que l'avantage cette partie de la vidéo, c'est que tu peux superposer des...
Exactement.
C'est vraiment là que tu vois que le truc marche. Ouais, quoi.
Voilà.
Je peux donner des pichenettes ou pas ?
Tu peux donner des pichenettes, ouais. Tout à fait. Tu... Ah, c'est bon, il est resté du même côté, là. Il me semble bien que tout s'est bien passé.
Du coup, il faut avoir l'œil, mais là...
Ouais. Parce qu'un autre truc, c'est que c'est très dur de se rendre compte si t'as vu un beat flip ou pas. Il faut vraiment la vidéo en replay.
Qui n'a pas vu un beat flip, pardon, mais... on dirait un move de skateboard. non, mais incroyable. Attends, et c'est quoi la machine derrière ? Ça va ?
Ça, c'est ouais. Juste une alimentation de laboratoire.
Ah oui, d'accord.
Évidemment. Et après, tu peux... Mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans ce tunnel, mais tu peux régler la vitesse du moteur et ça va changer plein de trucs sur l'oscillation paramétrique. Mais on va peut-être pas faire un cours de physique trop profond ce soir.
Merci. Non, mais déjà, on a eu un beau cours d'informatique quantique grâce à vous deux. Donc, merci énormément. Un tonnerre de love dans le chat. Vraiment, c'était passionnant. Et j'ai envie de vous rappeler dans quelques années, ou même moins, pour ouais, faire le
quand
point.
Quand on a fait marcher la correction d'erreur, on reviendra.
On revient. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici, vraiment.
Ça marche.
Et trop cool.
Merci beaucoup.
Et encore une fois, vous ne vous le direz pas parce que vous êtes trop humble, etc. Mais c'est possible qu'un jour, dans 10 ans, Alice et Bob, tout le monde connaît son nom, hein, c'est possible. Hein, ou qu'il y ait un prix Nobel ou des trucs comme ça, vraiment, et vous penserez à nous. Et vous reviendrez voir cette vidéo. Voilà, franchement, c'est très excitant, en tout cas, de suivre suivre ce domaine et d'avoir vos traductions en temps réel pour qu'on y capte un petit peu quelque chose. Parce que sinon,
si vous n'êtes pas là, on espère que c'était à peu près clair.
On est
toujours difficile à vulgariser. Ouais, la physique quantique de base, c'est un enfer à vulgariser. Mais
juste essayer de faire des jolies images pour que.
Ben non, mais c'est parfait. Vous nous avez mis très bien. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus, justement, vous pouvez aller voir String Theory, où tu fais des vidéos de vulgarisation qui sont même plus courtes parfois qu'ici, ou plus longues. Je sais pas c'est quoi le format.
C'est vraiment des trucs de une minute là.
Est-ce que tu peux faire une pub pour les vidéos à venir peut-être ?
Allez-y.
je voulais pas spoiler.
Pas de spoiler.
Non mais il y a des vidéos qui viendront plus longues sur l'ordinateur quantique. Okay. Faut juste que je fasse ça sur mes soirées, ça prend du temps. Mais.
Merci encore à vous deux. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour la prochaine émission qui sera dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez raté des petits bouts de cette émission, il y aura les rediffs dans les prochains jours. Je crois que pour une fois, on a prévu de les sortir vraiment très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis une très très bonne soirée. Et à la prochaine, tout simplement.
Ouais, salut tout le monde.
Bye bye.
Salut.